Mes chers amis, aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur un sujet très particulier qui nous concerne tous. Il s'agit du racisme. Je dis que ce sujet nous concerne tous car, en notre 20e siècle, il est rare de ne pas entrer en contact avec des hommes d'une autre nationalité ou d'une autre race. Tout le monde a au moins entendu parler du racisme et de la ségrégation, problème particulièrement aigu aux États-Unis, et tout le monde a été amené d'une façon ou d'une autre à réagir en face de ce problème. Il est décourageant de constater qu'après 2000 ans de christianisme, des barrières raciales ou sociales séparent encore les hommes et les dressent les uns contre les autres dans une haine implacable qui va souvent jusqu'au meurtre. Nous n'avons peut-être pas chez nous le même problème avec des gens de couleur que les Américains, mais nous avons chez nous des Portugais, des Espagnols, des Nord-Africains, des Gitans et d'autres encore. Et je constate que notre attitude froide, distante et méfiante à leur égard contient le germe empoisonné de la discrimination raciale. Michel Quast, dans son livre intitulé « Prière », se souvient de ces matraques qui ont frappé un Nord-Africain et qui l'ont tué. Il pense à ce texte de l'Écriture où il est question d'un homme qui a tué son frère. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» L'Éternel reprit, « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Puis vient la prière de l'auteur. « Seigneur, il me regarde encore. » Regard fixe et froid, immobilisé pour toujours dans l'angoisse de sa dernière question, « Pourquoi frappez-vous ? » Il est étendu à terre, les vêtements déchirés, mais la tête ornée de l'auréole de sang que la mort a peinte sur le trottoir. Les yeux de son corps me regardent, tandis que son âme envolée te contemple, étonnée du voyage imprévu. Seigneur, c'est dégoûtant. On leur a dit, « Vous êtes de la famille. » On les a laissés venir vers nous comme vers des sauveurs. On les a utilisés là où personne n'aurait voulu servir. Et là, prisonniers de leurs erreurs, logés comme des bêtes, exploités, méprisés, humiliés, au moment où ils veulent manifester leur mécontentement et leur révolte, au coin de la rue on les attend, bâton en main, comme les braves gens se rassemblent pour abattre un chien méchant. Seigneur, ils n'ont pas la même peau que nous. Ils n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes mœurs. Seigneur, ils viennent de loin. Ta rédemption ne les aurait-elle pas atteints ? Ou bien tes fils n'auraient-ils pas encore reconnu qu'ils sont tous frères, qu'ils ont tous été baptisés, baignés dans un même sang, ton sang, le sang d'un Dieu ? Seigneur, il y a encore partout dressé des frontières, des barrières. Il y a encore des noirs et des blancs, des prolétaires et des bourgeois, des exploités et des exploitants, des Russes, des Américains et des Français. Et certains de tes fils acceptent ces barrières comme s'il était normal que dans une même famille, certains gosses mangent les restes à la cuisine pendant que les autres se gavent dans la salle, comme s'il était normal que quelques-uns soient servis par les autres, serviteurs, comme s'il était normal que certains soient punis plus sévèrement que les autres, comme s'il était normal que certains s'acharnent sur d'autres, les abaissent, les condamnent, les tuent. Seigneur, ton sang nous réunira-t-il bientôt dans un même amour, l'amour de notre unique Père ? Saurons-nous faire tomber tous les obstacles qui nous divisent ? Accepterons-nous comme unique différence les dons que tu nous as donnés et non l'avoir que nous avons acquis ? Mes chers amis, il est important que nous apprenions à voir les hommes parmi lesquels nous vivons sur cette terre comme les voit le Créateur, c'est-à-dire tous des êtres qui ont besoin d'aimer et d'être aimés, capables de haïr aussi et de se révolter, épris de justice et d'équité, également désarmés devant l'incertitude de la vie et la certitude de la mort, et par-dessus tout, comme des êtres que Dieu aime, et pour qui il s'est donné, car à ses yeux, il n'y a pas de différence. Je viens de recevoir un article qui paraîtra bientôt dans notre revue Vie et Vérité. C'est un frère américain qui l'a écrit. Il n'en aura que plus de poids. Je vous le transmets tel qu'il m'a été transmis aujourd'hui, car il a une profondeur de réflexion qui éclaire le problème du point de vue individuel. Et c'est ce qui compte. Qu'importe ce que les autres pensent ou font, quelle doit être mon attitude à moi sous le regard de Dieu ? C'est cela qui est important. l'article s'intitule « Le fléau du racisme ». De tous les problèmes d'actualité, il n'en est pas de plus navrant que celui du racisme. Nous ne nous rappelons que trop bien les horreurs perpétrées contre des millions d'êtres humains par le nazisme, attribuables à la doctrine de la supériorité raciale. En Amérique, les injustices subies par les Noirs pendant 200 ans portent enfin leurs fruits de rébellion et de désordre social. La Belgique, le Canada et l'Inde ont ressenti l'effet de disputes linguistiques. Partout dans le monde, les luttes, d'apparence politique ou militaire, cachent d'anciennes antipathies de race, de nationalité ou de tribu. Le préjugé et le désaccord existent, paraît-il, presque partout. Et pourquoi ? Quelles sont les raisons de cet état de choses ? Pourquoi est-il si difficile de vivre ensemble dans le respect et l'amitié réciproque avec nos voisins de race et de langues différentes ? Premièrement, c'est une question d'orgueil. L'homme est une créature qui aime bien se vanter, s'admirer. On aime croire à la flatteuse idée, d'ailleurs complètement fausse, que notre propre race ou nationalité ou langue est supérieure aux autres. Beaucoup de personnes qui ne se croient pas racistes et qui critiquent sur un ton supérieur et indigné les racistes d'outre-mer ne veulent pas toutefois fréquenter, accueillir dans le quartier ou louer l'appartement à ceux qui ne sont pas comme nous autres, vous comprenez. Mais pourquoi les autres devraient-ils être comme nous ? Qu'est-ce qui nous fait penser que notre race ou notre couleur est le modèle de la perfection humaine ? Les sociologues nous assurent qu'il n'existe aucune différence pour la supériorité de quelque race que ce soit. Toutes les races produisent des personnes d'intelligence, d'industrie et de caractère moral. Toutes ont leur pourcentage de tarés, de paresseux et de malfaiteurs. Mais notre orgueil nous fait penser autrement. Deuxièmement, nous sommes parfois les victimes de conceptions stéréotypées. Assez bien connue est l'histoire du touriste anglais qui, en regardant par la fenêtre de son train stationné au Havre, voit passer une femme aux cheveux roux. « Ah !» se dit-il, avec la satisfaction qui vient de la connaissance absolue, « les Françaises sont rousses. » C'est exactement par la même logique que nous en arrivons à conclure que les Américains sont matérialistes et vulgaires, les Juifs sont avares, les Noirs sont paresseux et enfantins, et ainsi de suite. Ces clichés sont contredits par des millions d'exemples dans le monde réel, mais cela n'empêche qu'ils continuent à nous influencer. Une troisième raison du racisme est tout simplement honteuse. Les églises et autres institutions religieuses ont affiché une attitude ambiguë et timide à l'égard de ce problème. Elles n'ont pas hésité à condamner l'ivrognerie, le vol et les dérèglements sexuels, mais en ce qui concerne l'injustice sociale et la discrimination raciale, elles ont eu une tendance à garder un silence prudent. Et cependant, la Bible est parfaitement claire et explicite sur ce sujet. À l'occasion de la conversion des premiers chrétiens non israélites, l'apôtre Pierre a énoncé la doctrine chrétienne de l'égalité raciale. « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Plus tard, Pierre, intimidé par des frères de tendance légaliste et raciste, n'osa pas manger avec des non-juifs. Et l'apôtre Paul dut lui résister en face parce qu'il était répréhensible. Paul déclare d'ailleurs carrément que les frères hébreux, qui n'ont pas voulu manifester une attitude fraternelle envers les non-juifs, ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile. Le même apôtre affirme qu'en Christ, toutes les distinctions sociales disparaissent. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. De toute façon, ceux qui par orgueil, mépris ou dégoût veulent se séparer des personnes d'autres races ici sur la terre, ne se sentiraient pas très à l'aise au ciel, car les élus représenteront toutes les races. Le sang du Christ, selon les Écritures, a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous n'avons pas, peut-être, la possibilité de résoudre tous les problèmes sociaux du monde, et certains problèmes resteront sans doute insolubles, mais nous pouvons au moins prendre une position ferme et nette contre le racisme. Chaque chrétien doit prendre l'engagement solennel. J'accepte sans réserve le principe que tout homme est créé à l'image de Dieu. Je m'efforcerai sincèrement d'agir toujours en charité et en justice envers toute personne, quelle que soit sa race, sa couleur ou sa nationalité, et que Dieu me soit en aide. Amen.